Et on parle d'histoire, Claude, ce matin.
L'histoire qui est une déchirure et dans l'humanité, un homme proteste, Patrick Le Garrigue, directeur du journal, qui dénonce le déshonneur du Parlement européen. En cause, une résolution votée il y a une semaine, largement passée inaperçue, sur l'importance de la mémoire européenne. Mais dans cette résolution, on peut la lire sur le Parlement européen, on met sur le même plan nazisme et communisme, et on fait du pacte germano-soviétique l'acte fondateur de la Seconde Guerre mondiale. Alors Le Garrigue se dresse au nom des morts de l'armée rouge, des 20 millions de morts soviétiques dans la lutte contre Hitler, au nom des communistes résistants, au nom des victimes de la Shoah. Et il cite Thomas Mann, l'écrivain allemand, qui disait ceci: placé sur le même plan moral, le communisme russe et le nazifascisme est dans le meilleur des cas de la superficialité, dans le pire, c'est du fascisme. On peut considérer que l'histoire ne nous concerne plus, mais au fond, dans un journal qui est loin de sa gloire passée, Patrick Le Garrigue se souvient qu'il est l'héritier de Gabriel Péri, qui dirigeait les pages étrangères de l'humanité et que les nazis fusillèrent, et s'il oublie cela, s'il n'écrit pas, personne ne le fera à sa place. Un autre homme témoigne pour faire son devoir et aussi pour les copains morts dont il entend la voix, Laurent Sourisseau, qui dessine sous le nom de Riss et dirige Charlie Hebdo. Son éditorial cette semaine fustige les racistes de gauche. Il publie un livre, 1 minute 49 secondes, le temps qu'il a fallu au frère Kouachi pour décimer Charlie, et il se confie dans Le Point. Il y parle politique, il se doit de le faire, mais on retient surtout ce portrait d'un homme qui semblait voué à la mort des autres avant même que l'histoire ne le frappe. Lui savait déjà. On est partout, dit-il, dans des lieux de mort et on ne se rend pas compte. On vit entouré de cadavres, en Vendée, à Varsovie, on marche sur des cadavres. Les vivants ne s'en rendent pas compte, c'est mieux sans doute. Dans l'hebdomadaire La Vie, je lis cette phrase d'un écrivain allemand: sans mensonge, peut-être toutes les familles périraient-elles et tous les États aussi. Ainsi parle Chris Krauss, qui a brisé le mensonge en découvrant si jeune que son grand-père aimé avait participé à l'extermination des Juifs sur le front de l'Est. Il a passé 10 ans pour écrire un texte destiné d'abord à sa famille, puis on a fait un roman de 900 pages, La fabrique des salauds, en traduction française. Dans le télégramme, un autre Allemand, sympathique en diable, Hakim Gronski, nous jure que son papa Werner n'était pas un salaud, simplement un jeune homme engagé dans la marine que les hasards de la guerre avaient conduit à devenir télégraphiste de la commandanture de Lorient. Il achetait des médicaments à la pharmacie Mao et avait des copains fermiers à Rongouët. Hakim Gronski cherche les traces de son père qui, par la faute de la guerre, n'est jamais devenu ingénieur. Il veut en faire un livre. Nos mémoires peuvent-elles s'emboîter?
Dans l'Obs, un homme réclame son héritage.
Et c'est encore une mémoire déchirée, un père qu'on recherche. Le producteur Thomas Langman, fils de Claude Berry, deux hommes majeurs de notre cinéma, accuse la veuve de son père et son demi-frère de l'avoir spolié. Les détails importent peu, car il ne s'agit pas de comptabilité sordide, mais de la douleur inguérissable d'un homme que l'on décrit comme fou, qui pense aussi que son père n'est pas mort naturellement, mais qui pleure quand le journaliste de l'Obs lui lit un extrait des mémoires de Claude Berry, ce père disparu. Thomas a raison, je n'ai pas l'art d'être père, en un an c'est à peine si nous avons pris 3 repas ensemble. Thomas Langman pleure et se bat pour reprendre ce qui ne reviendra pas. Dans l'équipe, un homme puissant porte lui la mémoire de sa maman, Nelly. Elle vit, il est en paix avec elle, on n'en souffre pas moins. Eddie Jones est australien, sélectionneur du 15 d'Angleterre qui affronte les États-Unis en Coupe du Monde. Et du coup, tout revient car sa mère fut persécutée par l'Amérique. Fille d'un immigré japonais, elle fut internée dans un camp pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après 45, la famille repartit au Japon, à Hiroshima, dévastée par la bombe. Quelques années plus tard, Nelly rencontra un pilote d'avion australien qui l'emmena chez lui. Leur fils est un héros et un homme fidèle.
Et une autre fidélité pour finir.
Celle de Julie Catin dans l'usine Nouvelle, qui a perdu son père à 26 ans et qui a dû reprendre et sauver l'entreprise familiale Momentum, qui fabrique des appareils de manutention. La photo de son père orgne son bureau de PDG rejoignée dans Lyon. Elle est une des femmes que l'usine Nouvelle met en avant dans un numéro à lire tout à fait cessante, sans chercher du glamour. Elle ne s'occupe, ces femmes, que d'entreprise et d'industrie. Teresa Busto, qui dirige une usine d'Airbus, ou Audrey Bouillet, qui fut championne de full contact et militaire et qui vend pour Naval Group des navires de guerre. Elle porte une force, un avenir qui revigore ce matin. Dans Le Parisien, je lis qu'une autre femme, juge d'instruction à Paris, l'a échappé belle. Deux escrocs qu'elle gênait avaient planifié de la faire assassiner par des voyous serbes ou bosniaques. C'est un polar, c'est une femme puissante, c'est l'horreur de ce matin.